Le lundi de Pentecôte est resté le symbole de cette journée de solidarité, mais son application est tout autre. Chaque secteur a possibilité de choisir la date qui l'arrange, après accord de branche ou convention d'entreprise. Le principe, lui, reste le même. Pendant 7 heures, le salarié travaille une journée supplémentaire, mais n'est pas rémunéré pour ça, charge ensuite à son entreprise de reverser une cotisation de 0,3% de sa masse salariale brute. La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie compte ainsi récolter cette année 3 360 000 euros, soit 120 millions de moins que l'an dernier, somme qui servira notamment à la branche autonomie de la sécurité sociale, les personnes âgées ou handicapées. Il n'existe à ce jour pas de statistiques officielles permettant de savoir quel modèle est le plus utilisé, lundi de Pentecôte d'un côté ou un autre jour dans l'année. Comme chaque année, le syndicat CFTC lance un appel à la grève pour aujourd'hui au nom du principe « tout travail mérite salaire ».
Mathilde Dehimy pour France Info. Et cette journée de solidarité a rapporté en 12 ans plus de 35 milliards d'euros à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Bonjour Frédéric Bizard.
Bonjour Lucie Barbara.
Professeur d'économie à l'ESCP Business School et président fondateur de l'Institut Santé. Est-ce que vous diriez que cette journée de solidarité à géométrie variable, on l'a compris, est vraiment utile aujourd'hui, encore aujourd'hui, pour financer la sécurité sociale et la branche autonomie?
Bon, c'est un dispositif assez unique en France, puisque c'est une journée travaillée non rémunérée. C'est-à-dire que les Français travaillent 7 heures par an non rémunérées, ce qui est vraiment de la solidarité. Cette contribution, donc c'est une contribution sur la masse salariale brute, à peu près de 22 millions de salariés, du public comme du privé, et qui aujourd'hui représente à peu près 8% des dépenses de la Caisse nationale santé autonomie qui avait été créée à peu près au même moment, en 2004. Bon, donc tout ça est fléché, tout ça, et les Français doivent se rassurer, c'est que ça sert bien à rémunérer des prestations d'autonomie. On pourra dire un mot sur le secteur autonomie, comment est-ce qu'il se porte, mais en tout cas, c'est véritablement fléché. Alors pourquoi est-ce que ça baisse? J'entendais dans votre reportage que ça baisse. Il y a des trous dans la raquette. C'est-à-dire que, d'abord, cette journée de solidarité, elle ne concerne que les salariés, parce que c'était basé sur le rapport employeur-salarié. Et aujourd'hui, vous avez de plus en plus d'indépendants, d'auto-entrepreneurs. Vous avez à peu près 5 millions de Français qui sont indépendants, dont 60% sont des auto-entrepreneurs. Et ceux-là ne sont pas concernés par la journée de solidarité. Donc il est assez normal que le rendement baisse, parce que la part salariée et indépendant a tendance à baisser.
Oui, vous dites cet argent est fléché. Ça veut dire quoi concrètement en bout de chaîne? Où va l'argent? Ça finance des établissements de santé spécialisés? Ça finance quoi?
Oui, c'est une bonne question, parce qu'on pourrait penser que ça finance aussi, par exemple, des prestations de santé à domicile. Mais notre système étant beaucoup trop concentré sur les établissements, qui sont les plus coûteux, et pas assez sur l'amont de la chaîne, c'est-à-dire la prévention des seniors fragile et le maintien à domicile, ça va à près de 90% financer le fonctionnement des établissements pour personnes âgées, des EHPAD, très concrètement, les quelques 7000 EHPAD qui représentent presque 85% des dépenses autonomie. Donc on a un petit peu comme en santé une hyper-concentration des dépenses sur les hôpitaux, on a la même chose là sur les EHPAD.
Alors que le secteur de l'aide à domicile est dans un mal-être profond, on l'a vu encore dernièrement avec les aides, le coup de pouce carburant pour ce secteur-là.
Oui, mais si vous voulez, ce qui est intéressant dans cette journée, puisque là on est sur du financement, c'est intéressant, c'est de savoir qui doit financer finalement ce secteur-là. Est-ce que ce sont les actifs? Attention, parce que à moyen terme, la population active va stagner de 2030 à 2035, puis ensuite diminuer. Est-ce que ce sont davantage les retraités? Vous savez, on est en plein dans le débat politique. Est-ce que les retraités, parce que si vous voulez, la solidarité intergénérationnelle, elle est déjà massive en France. Dire que les actifs, les jeunes doivent payer pour les anciens, c'est déjà le cas pour la santé, c'est déjà le cas pour les retraites.
Donc, mais les retraités auraient les moyens de s'autofinancer en quelque sorte?
Alors, il n'y a pas de baguette magique, et c'est certainement pas que les retraités. Tout ça, faut savoir que à peu près 88% des dépenses sont financées par de l'impôt, c'est-à-dire par la CSG. La CSG, elle repose à 70% sur les revenus du travail, donc c'est déjà très largement les actifs. La question qui se pose, c'est est-ce qu'on veut rendre davantage assurantiel le financement de l'autonomie, qui aujourd'hui est massivement financé par de l'impôt. Mmh. Vous voyez, et comme c'est une dépense qui va augmenter, mais c'est une vraie question politique. Moi, je pense que si on veut en faire une vraie cinquième branche de la sécurité sociale, qui est aujourd'hui une cinquième branche apparente, non effective, puisque c'est de l'impôt. Donc, c'est plus un budget de l'État qui est transféré à la caisse santé autonomie que véritablement un financement assurantiel. Maintenant, si on veut en faire une vraie cinquième branche de l'autonomie, ce qui me paraît, moi, une bonne idée, si on est attaché à la sécurité sociale et à un financement solidaire, il faut qu'à un moment, qui doit payer cette cotisation ? Encore une fois, il y a de la CSG, il faut la conserver, mais il faut augmenter la part de cotisation.
Donc cette journée de solidarité, elle ne sera plus pertinente au bout d'un moment, c'est ce que vous dites ?
Oui, non, elle n'est pas... Elle est de moins en moins pertinente, parce qu'encore une fois, il y a de moins en moins de salariés, donc on voit que son rendement va baisser. Il va encore plus baisser quand la population active va baisser. Je suis désolé, mais 2035, c'est demain. Oui. Vous voyez, quand on se projette. Bon. Donc son rendement ne peut que baisser. Donc, ce n'est pas un financement d'avenir. Vous voyez, le Sénat avait essayé en 2025, c'est-à-dire en octobre 2024, pour la loi de financement de sécurité sociale 2025, de doubler d'avoir une deuxième journée de solidarité, ce qui avait été refusé par le Parlement. Je ne suis pas sûr que... Mais bon, OK, on peut dire qu'il faut travailler plus, mais là, ce n'est pas pour gagner plus, c'est pour la solidarité. Mais il y a une autre façon de faire, et qui d'ailleurs est plus lisible, c'est de dire qui doit financer les dépenses supplémentaires. Parce que là, on va parler de dépenses supplémentaires. On a 1 300 000 personnes âgées qui sont aujourd'hui... en APA, c'est-à-dire en dépendance, et on va être à peu près à 2 millions dans les 15 ans qui viennent. Donc il faut penser qu'on va avoir des besoins supplémentaires. Donc il faut réformer le secteur pour basculer davantage vers le maintien à domicile, mais il faut imaginer une nouvelle source de financement. Moi, je pense que les 50% des retraités les plus aisés qui payent aujourd'hui la CASA, qui est une petite contribution de 0,3% dédiée à ça. Si on fait monter cette contribution à 1% en 2030, puis à 3% en 2050, on arrive à couvrir les besoins supplémentaires.
Bon, donc c'est un choix politique, parce que ça veut dire faire contribuer les retraités les plus riches. Et alors, vous savez que cette question-là, elle n'est jamais
Ce que populaire. Je dis, c'est qu'il faut trouver, il faut trouver des sources. Penser que la population active va être une ressource possible, penser coût du travail, penser salaire net, on voit bien que ça a beaucoup d'inconvénients de ce point de vue-là. Bon, donc si on ne veut pas toucher aux retraités parce qu'ils sont des votants et que... Très bien, mais on n'arrivera pas à financer les besoins supplémentaires quand on se projette à 2050. Et je ne pense pas que faire travailler les Français davantage sans améliorer leur pouvoir d'achat soit une piste politiquement aussi très prospère.